Bonjour à tous, je veux dire deux mots sur la feuille verte que vous venez d'avoir. C'est donc une bibliographie indicative des suggestions. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, enfin, bref. Bon. Alors, le premier, Barthélemy. Là, vous trouvez déjà, avec une tricherie de l'éditeur, parce que le livre n'est pas de 2004. En 2004, c'est une réédition. Il est quand même des années avant 70. Mais, malgré son âge, certain est très beau. Barthélemy était un des meilleurs spécialistes de la critique textuelle, c'est-à-dire de la comparaison des manuscrits. Il ne faut pas confondre la critique textuelle avec la critique littéraire. La critique textuelle, c'est essayer de trouver les moins mauvais textes à partir duquel on a fait des copies de ceci et de ça. Bon, il était extrêmement calé et en même temps bon théologien, ce qui est très rare parce que critique textuelle, c'est une technique. Mais la théologie n'est pas une technique. Ou pas seulement. Bon, Besançon, Dieu n'est pas bizarre. Le titre vous dit déjà un peu la visée de cette œuvre très simple, mais tout à fait pertinent. Donc pour, comment dire, pour nettoyer un peu un certain nombre d'images de liés que nous avons. Il n'est pas encore du même niveau qu'un autre qui a été écrit par quelqu'un qui est mort l'année dernière, qui s'appelait « Les dieux pervers ».« Les dieux pervers », oui. Qui était excellent, mais alors c'était décapant. Hein. Si vous le trouvez, ou si vous le voyez, ou s'il y a quelqu'un qui vous le prête, le lieu pervers, c'est excellent. Excellent. Mais bon. Non, il n'est pas cité ici. Hein.
Non. C'est le dieu ou le dieu ?
Le dieu pervers. C'était une critique des représentations que les chrétiens et les catholiques ont, disons, tremballé, et on tremballe toujours encore, sur Dieu. Et là, effectivement...
Et quel est l'auteur ?
Comment ?
L'auteur.
Laissez-moi une seconde. Bellet, Maurice Bellet. Il est quand même très connu, il est mort l'année dernière. Non. Il n'est pas connu, non pas parce qu'il est mort l'année dernière, mais quand même. Bon, alors, le suivant, Dietrich, je ne connais pas, donc je ne peux pas vous dire. Joseph Doré, oui, ça c'est un excellent théologien. Il est un peu baroque dans la manière d'écrire. C'est-à-dire, il dira jamais, il pleut. Il dira, il y a des précipitations à partir de la condensation de je ne sais pas quoi. Enfin, un peu baroque, mais excellent. Excellent. Alors, Pierre Jarvet, c'est un ancien directeur du CIF, qui est décédé il y a à peu près 7 ans. Il était un très grand pasteur et très intelligent, ce qui n'enlève rien, ni à l'un ni à l'autre. Donc un type très curieux, qui lisait beaucoup, qui travaillait, qui a en même temps un sens pastoral particulièrement important. Jacques Guillet, c'est un super classique d'un jésuite qui était longtemps professeur à Sèvres. Bon, Hugo, c'est très, disons, vulgarisateur, mais pour une première approche de la question, c'est pas mal. Alors, les deux suivants, Marc Guéra, il est excellent. J'ai encore vérifié ça la semaine dernière. J'ai lu un petit livre qu'il avait fait déjà il y a quelques années sur saint Paul. Bon, il réunit trois choses et il lui manque une. La compétence extrême qu'il a. Il est super compétent. Bon, il a fait un petit livre, par exemple, justement celui-là, Un admirable christianisme sur les actes des apôtres, mais en parallèle, il a fait un commentaire du livre des actes des apôtres en trois volumes. Bon. Donc, excellent connaisseur. Un savant de haut niveau. Deuxièmement, il a une pédagogie. Il sait dire en fonction du public auquel il parle, en fonction du destinataire pour lequel il écrit. Ça c'est énorme. L'autre jour, on a eu une conférence dans l'Association Bibliothèque Sainte sur l'Égypte. Le type était archi-calé. Mais alors, il parlait comme s'il parlait dans un séminaire des doctorats. Et donc, on n'était pas tous, je dirais presque personne, dans l'Assemblée, prêt à entendre sur les processions d'Osiris. Il fallait quand même avoir un arrière-plan que nous n'avions pas. Bon. Mais Marguera, il est très pédagogue. Et en même temps, troisième qualité, il écrit très clair et très bien. Donc, il a beaucoup de choses à dire. Il sait les dire et il les dit de façon agréable à les lire et à l'écouter aussi. Vous avez l'occasion. Qu'est-ce qui lui manque? Là, vous allez être surpris. Hein. Bon, c'est un Suisse, Marguera. Il est prof à Lausanne depuis longtemps. Bon, plus maintenant, parce qu'il est à la retraite, ça arrive à tout le monde. Mais tout en étant Suisse, il n'a pas l'essence du commerce. Parce que très souvent, par exemple, le petit livre « Un admirable christianisme », etc., il a fallu faire le tour du monde pour qu'il les réédite, étant donné que la première édition a été vendue comme de Madeleine, quoi. Donc, et avec l'autre, avec celui sur Saint-Paul dont je vous parle, pareil. Il n'est pas disponible. Sachant que ça va être vendu, mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas chez d'autres éditeurs, enfin. Donc il n'a pas le sens du commerce. Ce n'est pas un épicier, ça c'est certain. Bon. Alors, je dis que ça c'était un défaut, peut-être que vous allez trouver que c'est une vertu aiguë, mais bon. Alors, le suivant, Pagola, c'est un livre quand qui est gros, c'est une traduction de l'espagnol, l'auteur c'est un bibliste et un pasteur de grande qualité, son livre c'est Jésus, une approche historique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en suivant, disons, le résultat des historiens, etc., à propos de Jésus. Bon, Jésus, par rapport à son milieu, d'où est-ce qu'il venait, qu'est-ce qu'on sait de paysans de Galilée, d'où il venait. Jésus et les femmes, bon là, vous aurez de découvertes. Bon. Donc, il est encore quelqu'un de très calé. Mais ce n'est pas un livre sur Jésus-Christ, c'est un livre sur Jésus. Qu'est-ce qu'on peut savoir et dire aujourd'hui du point de vue historique sur Jésus? Il est excellent en plus parce qu'il est, comme l'autre, très pédagogue. Il écrit très très bien. Même si c'est un basque redoutable, mais il écrit très bien, c'est qui est rare. Bon, il coûte 39 euros, mais enfin, ça, c'est un livre qu'on lit avec grand plaisir. Bon, je fais la preuve à la paroisse où je suis. On a travaillé pendant un an et demi sur ce livre. Et les gens étaient... Là, je connais une catéchumène, une jeune femme, je ne sais pas, 28 ans, quelque chose comme ça, qui, dans le cadre de la préparation au catéchuménat, elle est en train de lire par grâce, alors elle est enchantée, séduite, conquise. Donc, ça, je vous le recommande, enfin, mais pas pour le lire demain, hein, parce que. Même si elle est un peu, comme dire l'autre, addictif, parce qu'une fois que vous commencez, c'est les gens des livres qui. Et encore, et encore, et encore. Alors, l'autre, Salamito, là, c'est une autre histoire. C'est pas. Enfin, le titre vous dira déjà. Là, c'est de l'actualité actuelle. Mais si on ferait au pays des mythes, réponse sur Jésus et le christianisme. Je ne sais pas si vous avez eu le malheur d'entendre Onfray cet été à France Culture. C'était un mystère, il y en a beaucoup de mystères dans le monde. Comment France Culture donne 2 heures par jour l'été à un imposteur comme Onfray? Comment? Oui, non, quoi, heureusement. Enfin, il a été déjà quand même pendant très longtemps. Et c'est un type qui a toute la grâce, si l'on veut dire, des imposteurs. Et dans le cadre du livre qu'il avait fait sur Jésus, bon, il montre, mais alors, la preuve par neuf, c'est vraiment qu'il ne connaît rien, qu'il ment consciemment, et que la seule chose qui l'intéresse, c'est d'embobiner le public pour vendre. Lui, par contre, il sait vendre. Oh, voilà, vraiment. Et alors, vous avez le petit livre de Salamito, qui est un professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne, qui, à la demande de ses étudiants, qui disaient bon, qu'ils avaient été interloqués par Onfray, etc., ils lui ont demandé, écoutez, on ne peut pas laisser passer ça, il faut dire quelque chose. Il a fait une réponse à Onfray, point par point, sur tous les chapitres, etc. Alors, à un moment, quand vous mangez même une tranche de pain de mie, vous laissez quelques miettes. Là, on ferait rien. Salamito, que j'ai vu l'autre jour à la soutenance d'une thèse d'un enseignant du CIF, je ne sais pas comment il a fait, parce que moi, je n'aurais pas pu faire comme lui, parce qu'il est resté pendant tout ce petit livre-là extrêmement calme. Pas un gros mot, pas une insulte, rien. J'aurais pas pu, parce que c'est tellement gros, Onfray, que j'aurais commencé par utiliser justement les mots de imposteur. Bon. Mais lui, Salamito, il reste très très calme, il peut pas. C'est vraiment un découpage au laser. Vous avez entendu ce célèbre journaliste saoudien qui a disparu du consulat turc, etc. Et les gens disent qu'il aurait été dépecé dans les consulats turcs pour parler. Alors, Salamito fait un dépeçage de Onfray, mais alors un bistouri au laser avec des arguments et à bout d'entendre major. Excellent, parce qu'il connaît ça très bien. Donc, si vous avez du temps, commencez d'abord par Onfray pour voir ce que ça dit, et ensuite Salamito, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre l'un sans l'autre. Bon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire Onfray, mais j'ai lu un truc une fois, que j'ai jeté toutes les griffes dehors, mais je me suis dit, non, écoute, on va lire, même si. Et j'ai lu le truc, et il y avait quelques petits points qui étaient pas mal. C'était un article dans Le Monde, donc. Enfin, bref. Salamito, il est vraiment excellent, parce qu'en plus, il reste d'une froideur scientifique imperturbable. Alors, Cesboué, qui est celui qui soulève l'appareil vidéoprojecteur pour que ça avance. C'est joué, c'est un jésuite qui habite juste là, rue Grenelle. C'est un théologien, un dogmaticien excellent. Excellent sur l'histoire des dogmes, sur la naissance des dogmes, comment ça fonctionne, etc. Il est très bon. Il est pédagogue. Il est écrit suffisamment bien pour le lire avec plaisir et non pas dire encore. Non. Enfin, c'est pas comme Marguera, ni comme Pargola, comme qualité des... écriture, mais il est quand même tout à fait. Alors Théobald, c'est une autre affaire. Théobald, c'est encore un jésuite, toujours à rue de Sèvres. Mais alors là, c'est la spéculation à la 10e puissance. Et ce qui est très cocasse, c'est que là, vous en avez un, celui qui est là, la révélation aux éditions de l'atelier dans la collection Tout Simplement. Alors, Théobald, pour faire dans la collection Tout Simplement, il a dû s'élever à 3h du mat, minimum, parce que... Mais il est excellent. Christophe est vraiment un théologien de très grande qualité. En plus, très ouvert, pas seulement cantonné à une telle question. Non, il est très, très ouvert, etc. Alors, Varillon, c'est une autre affaire, on n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce n'est pas un théologien spéculatif, c'est un pasteur accompagnateur spirituel, si vous voulez. À ne pas confondre les spirituels avec les spiritueux. Parce que trop souvent... Sous le concept spirituel, on trouve des choses qui sont un peu d'un fade sublime. Enfin. Alors, les suivants, de Vézin, Jean-Marie Vézin et de Laurent Villemin. Alors, Vézin a été longtemps président du CIF. Et lui, il a fait pendant plusieurs années les cours d'ecclésiologie sur l'Église, que vous aurez l'année prochaine. Alors, Villemin, Laurent, qui est décédé malheureusement l'année dernière, même s'il était encore très très jeune, il avait 53 ans, mais c'était un des meilleurs théologiens de France. Et en plus, il était dans ses domaines particulièrement glissants, l'Église. Mais il était extrêmement compétent, non seulement dans la question de l'ecclésiologie, mais aussi il avait fait de la sociologie à Nanterre, de la philosophie, du droit canon, enfin bref, c'était une formation polyvalente. Et tous les deux ont fait quelque chose qui est, vous l'avez ici, qui est un livre très bien conçu. C'est-à-dire les 7 points que le Concile Vatican II a renouvelé. Mais l'astuce pédagogique qu'ils ont faite, c'est que pour comprendre les nouveaux, il faut connaître l'ancien. Il y a un dicton basque qui dit « Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. » Ben justement, enfin, là, des choses de Vatican II qui nous semblent particulièrement évidentes, ben, si vous aviez vécu, ou en tout cas ceux qui l'ont vécu se souviennent certainement, avant Vatican II, et on mesure l'importance et la pertinence des changements en partant de là où on était. Donc là, c'est bon, c'est très facile à lire, c'est très très bon. Alors le dernier, c'est encore un Suisse. Zumstein est le meilleur spécialiste au niveau mondial, et en tout cas le meilleur francophone. Il est bilingue, hein, il est francophone et germanophone, sur Saint-Jean, que ce soit les évangiles ou les épîtres. Il est, en plus, il est très très clair aussi. Et très serviable, enfin vraiment c'est un type, un Suisse charmant. Ça existe. Alors écoutez, quand vous avez un doctorat avec vous, vous êtes en Suisse et le doctorat vient de France en TGV, et vous allez, vous, directeur, à la gare chercher votre doctorat, vous l'invitez à manger chez vous, et après travailler, ensuite vous le conduisez à la gare, etc. Ça, c'est un directeur de thèse, on n'en trouve pas tous les jours. Bon, donc, il est, mais en même temps, il écrit très clairement. Il est archi pertinent. Donc, si vous voulez, et là, c'est un peu, voilà, à la découverte de Jean, de l'évangile de Jean, et de ses lecteurs, c'est-à-dire où l'évangile de Jean est né, comment, et pour quel problème, ou pour quelle question, à quelle question répond l'évangile de Jean, ou prétend répondre. L'histoire de la composition, etc. Donc, Zumstein, vous voyez, il y a deux Suisses, un Allemand, un Basque, quelques Français, et voilà, pour ça, le plateau est servi. Bon, est-ce que sur ça, ou sur ce qu'on avait dit la semaine dernière, il y aurait des questions? Oui?
Est-ce qu'on pourra trouver un de ces livres ou quelques-uns à la bibliothèque?
Tous, ils sont tous là. Vous avez l'explication théorique et l'objet du délit devant vous. Sauf Salamito. Salamito, je crois qu'il n'est pas parce qu'on l'a inclus ce matin. Donc, oui. Non, c'est un petit. Lui, il est grand, il est assez costaud, une voix très très puissante, mais le livre, je ne sais pas, ça va faire... je crois qu'il coûte 14 euros, quelque chose. Ça, vous voyez un peu... Et ça se lit, bah, si vous commencez, surtout si vous avez en face, ou dans votre tête, la tête d'Onfray. Ben, ça, vous les lisez dans une soirée jusqu'à minuit. Mais ça va. Ça se lit très bien. Et ce sont des questions importantes qu'il traite. Bon. Bon, alors donc on va reprendre là où on a laissé la dernière fois, c'est-à-dire la première. Donc, la dernière fois, on avait fait les contextes, les objectifs. On était resté, regarde, les deux sens du mot foi. Si vous partez pour savoir ce que ça veut dire le mot foi, une sorte de définition de dictionnaire, vous trouverez, par exemple, la réponse de l'être humain au Dieu vivant qui se révèle et se communique en Jésus-Christ. Ça, c'est une définition de foi du point de vue chrétien. Donc, la réponse de l'être humain au Dieu vivant qui se révèle en Jésus-Christ. Très bien.
S'il vous plaît.
Oui.
Par rapport à ça, justement, je regardais le texte. Est-ce que c'est la réponse, ou plus précisément, l'adhésion de l'intelligence à la révélation ?
La réponse est plus large que l'intelligence. Bon, on peut dire, effectivement, on peut dire l'adhésion, oui, dans le sens que il s'agit d'une adhésion à une personne. Ce n'est pas une adhésion à des vérités, ou à des énoncés, ou encore moins, à une morale, par exemple. Mais c'est une adhésion, ça c'est tout à fait certain. À une personne, on peut lui dire ça aussi, effectivement. C'est qu'il vous donne deux lignes à suivre, une sorte de dimension subjective de la foi, c'est que les croyants récents vivent, comprennent, suite à cette communication qu'on lui a faite. Ça, c'est la dimension subjective. Le destinataire de cette communication, il est quand même touché jusqu'à un certain point. Ne serait-ce que pour dire non, mais enfin. Et la dimension objective, c'est-à-dire, pour faire simple pour l'instant, l'écriture. La Bible, si vous voulez. Ainsi que ce que les églises, on peut parler d'une église, enfin des églises, ont forgé pendant des siècles. Les critères des discernements font partie de cette dimension objective, parce que tout ce qui nous vient du passé n'est pas à prendre et à gober. Loin de là. Loin de là. De manière neutre, on peut dire que la révélation instaure une sorte de relation entre celui qui reçoit la révélation, la communication divine, et celui qui la communique. Il y a un qui donne et l'autre qui reçoit. Ou si vous voulez, le destinataire, l'homme, et le destinateur, Dieu. C'est vrai que, d'une certaine façon, ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est objectif, subjectif, etc., est applicable également à l'islam et au judaïsme. Il y a une sorte de relation qui s'instaure. Mais on verra tout à l'heure que on commencera à voir que ça ne se fait, ni ça ne se passe pas de la même façon dans les trois religions. Dans le parcours du CIF, là, on va commencer par la dimension objective. C'est-à-dire, faire super simple, le contenu de la révélation. Et on finira, le dernier cours, par la dimension subjective. On ne peut pas séparer radicalement les deux dimensions, mais faire le fait de mettre le paquet, si vous voulez, sur un aspect permet quand même de clarifier les différents éléments. Il faut aussi garder à l'esprit à ne pas opposer deux choses qui souvent sont mises l'une face à l'autre comme si elles s'excluaient. On ne peut pas minimiser la dimension objective. Disons que ce qui compte, c'est la sincérité du croyant, et c'est sa vie de foi, sa relation avec Dieu, etc. Et que le contenu, bon, on s'en fout. Non, parce que la dimension objective est... Elle est là, il y a une adhésion à quoi ? À qui ? Et c'est qui et c'est quoi ? C'est quand même pas interchangeable avec n'importe quoi d'autre. Donc, il faut pas non plus aller dans l'autre sens, c'est-à-dire ce qui compte, ce sont les vérités que Dieu aurait révélées à l'homme, comme si effectivement la relation que Dieu prétend établir avec l'homme était faite de vérité. Ou, c'est ce qu'on On voit souvent une morale, par exemple. Et souvent, quand on prépare les parents au baptême de leurs enfants, on leur demande, mais qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez avec le baptême, etc. J'aurais pu les inscrire aussi à un club de natation aussi. Hein. Donc, pourquoi, qu'est-ce que vous cherchez? Et très souvent, ils demandent, ou ils disent, ah, on veut qu'effectivement, quand il soit grand, il ait quand même des repères moraux. Bon, ça, c'est pas mal. Mais enfin, la foi, c'est pas ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conséquences morales dans la vision de foi, ça c'est plus que certain, mais ce n'est pas ça le contenu objectif de la foi. Je passe donc au grand 1, la révélation historique dans l'unique plan de Dieu. C'est un titre qu'aucun éditeur ne vous accepterait parce que c'est imbuvable. Mais enfin, on va aller décortiquer un peu. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le plan de Dieu? Le terme « le plan de Dieu » a des échos bibliques. Si vous avez fréquenté un peu l'Ancien Testament, vous vous souvenez par exemple de certains textes du prophète Isaïe, chapitre 10, ou dans le livre de Job, au chapitre 38, verset 2, qui est souvent traduit par « Qui est celui qui attaque ma providence ?» La providence dans nos têtes a une connotation très précise, mais le texte explicitement dit « Qui est celui qui met en cause mon plan ou mon projet ?» Et quand on parle ça, ça veut dire le projet des dieux pour les hommes. Le plan de Dieu. On peut effectivement traduire, au lieu de plan de Dieu, le projet de Dieu. Donc, c'est un langage plus classique, si vous voulez, langage d'une retraite ou d'un exercice spirituel, on parlerait du dessein de Dieu. Quel est le dessein de Dieu pour vous? On ne peut pas identifier comme ça, d'emblée, les plans de Dieu et la révélation. Le plan de Dieu est plus large si on parle, on pense révélation comme l'écriture. Le plan de Dieu ne se réduit pas à la révélation, le plan de Dieu. Le projet ou le plan de Dieu est plus large que la révélation judéo-chrétienne. Un texte de l'Épître aux Éphésiens permet de clarifier un peu la chose. Je lis d'abord, parce qu'il est compliqué, et je les laisserai reposer un peu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi l'a voulu sa bienveillance. À la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même. Pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est dans la terre. Voilà le plan de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est capable de me dire deux phrases de tous ces textes, chapeau. Parce que c'est vraiment un condensé extrêmement lourd. On y reviendra.
Excusez-moi, vous pouvez donner les coordonnées de ce texte ?
Tout de suite. C'est l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 10.
Merci.
Mais vous l'aurez dans vos papiers. C'est donc dans le cadre de ces plans de Dieu, du dessein de Dieu, du projet de Dieu, qui prend place la révélation. Le mot révélation est venu très tard, comme on verra tout à l'heure, à désigner l'essentiel du contenu de la foi. Mais, dans la Bible par exemple, et après, il y a eu d'autres mots, d'autres expressions qui servaient à dire la même chose. Là, vous en avez quelques éléments sur l'écran. La voix. Ceux qui suivent la voie. Ça, c'est une expression que vous voyez là. Il y a au moins trois fois dans les actes des apôtres où on nous dit ça. Le mystère, dans les textes que nous venons de lire de Éphésiens, ou dans Marc, chapitre 4, verset 11. Une autre expression, c'est l'évangile des dieux. En Marc 1, 1. Il y a deux textes très importants de Paul en lesquels la révélation se confond presque avec la tradition. Mais la tradition est quand même très située, c'est-à-dire au chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens et au chapitre 15 de cette même épître. Au chapitre 11, c'est quand il raconte aux Corinthiens, « Je vous ai transmis ce que moi-même j'ai reçu. Comment la nuit avant sa mort, le Seigneur, pendant le dîner, il prit du pain, etc. etc. » Et là, vous avez les deux termes clés, je vous ai transmis, c'est le mot qui donne tradition, paradidomai, je vous ai transmis, c'est que moi-même j'ai reçu. Et vous avez exactement les mêmes deux verbes clés au chapitre 15, quand il parle de la résurrection. Je vous ai transmis, c'est que j'ai reçu, comment Jésus a été mort, etc., pour le péché, talala, et le troisième jour, il est ressuscité, il est apparu à machin, etc. Et en dernier, dit-il, Paul, toujours très sympathique, il s'est apparu à moi en dernier, comme un avorton, mais il en a fait plus que. Paul a une sens de l'équilibre particulièrement humble. Bon, enfin bref. Et à chaque fois, c'est recevoir et transmettre. La question de la tradition. Et là, effectivement, dans le premier cas, c'est l'Eucharistie, fondement, enfin, une composante essentielle de la foi chrétienne, et deuxième, la résurrection. La mort et la résurrection. Ça, effectivement, on peut dire que ça, c'est la tradition, dans le sens que, fort du terme, mais les éléments essentiels, et c'est la révélation. Saint Thomas d'Aquin, bon, on est dans un contexte absolument différent, et lui, il parle de la doctrine sainte. Vous voyez déjà les glissements. On est dans un contexte, on va dire, avec un mot qu'on utilise souvent, intello, mais intello dans le sens de réflexif. D'organiser ce qu'on croit. Et le terme, la révélation, n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, c'est quand même un peu tard. À la suite de la contestation de philosophes, contestation de la foi chrétienne qui prétendait que Dieu parlait à l'homme, etc. Et suite, la réaction, c'est dans cette réaction qui apparaît le terme révélation. Pour faire une description, enfin une description un peu pictural, si l'on peut dire, de la révélation, je vais prendre un texte du Concile Vatican II, donc il y a 60 ans, à la constitution qu'ils appellent Dei Verbum, c'est-à-dire la parole de Dieu, dont on va en parler tout à l'heure assez longuement. Il dit, la révélation attesté dans la Bible et annoncé par l'Église, consiste en ceci, que Dieu invisible s'est dévoilé et communiqué dans la figure et les destins de Jésus-Christ. Verbe incarné, parole incarnée, si vous voulez, et s'est fait connaître de certaines âmes éclairées par son esprit. L'attente et la préfiguration du Christ dans l'Ancien Testament, l'intelligence du Christ dans le Nouveau, appartiennent elles-mêmes, cette attente et cette compréhension, quoique diversement ordonnées de la révélation. Pour digérer ça, il faut de l'Alcacerzer aussi à forte dose. Mais c'est le problème, parce que là, cette affaire, il voulait tout dire, ou en tout cas, ne pas laisser des aspects qu'il considérait le père conciliaire comme essentiels. Donc, je lis déjà un peu plus vite. La révélation attestée dans la Bible et annoncée par l'Église consiste en ceci, que Dieu invisible, s'est dévoilé et communiqué dans la figure les destins de Jésus-Christ. Là. Qui est donc la parole incarnée et s'est fait connaître à certains grâce à l'action de l'Esprit-Saint. La deuxième fois, ça va un peu mieux. L'attente et la préfiguration du Christ dans l'Ancien Testament, l'intelligence du Christ dans le Nouveau appartiennent elles-mêmes au contenu de la révélation. Autrement dit, l'Ancien Testament et le Nouveau appartiennent aussi à la révélation. Non, pas seulement ce que l'Ancien et le Nouveau montrent, mais eux-mêmes, sont constitutifs de la révélation. Ça, c'était assez important à le dire. La première partie de cette définition que je viens de vous lire est assez simple et contient le noyau Dieu invisible auquel se communique par son Fils, etc. La deuxième partie, la question donc de la préparation et l'intelligence, donc l'Ancien et le Nouveau Testament, présente un peu le périmètre de cette révélation. Très bien. Ce qu'on constate, c'est que la Bible judéo-chrétienne fait partie de cette révélation. L'Église peut être considérée effectivement comme patrimoine de l'humanité, d'une certaine façon. Mais nous la lisons comme la référence de la communauté transmise par cette même communauté. Je ne sais pas si je m'explique, je suis un peu tordu. L'Église fait partie d'une certaine façon de la révélation dans la mesure où c'est elle-même qui nous a transmis les données essentielles de la révélation. Même si après, chacun peut avoir des voies privées, si l'on peut dire, ou privatives pour entrer ou s'approprier de la révélation, mais il y aura toujours l'Église comme critère de discernement. C'est pour ça que quand on vous parle des apparitions, de ceci et de cela, d'ailleurs, c'est quand même assez curieux, c'est toujours la Vierge qui apparaît, on dirait qu'elle a mal des paroles. Bon. Mais ça, c'est le critère de discernement, c'est l'Église. Le Verbe incarné, disent-ils, Jésus-Christ s'est dévoilé et manifesté dans Jésus-Christ, Verbe incarné. Le mot Verbe, vous savez très bien, est devenu français, mais c'était mot latin, qui traduit les mots grecs, logos. Logos, on l'utilise comme composante dans 36 000 mot français. Le mot logos veut dire deux choses. Parole et en même temps la raison, si vous voulez. La raison. Alors, pour bien comprendre ces verbes qui est utilisé dans le prologue de l'évangile de Jean, commencement était le verbe était auprès de Dieu, le verbe était Dieu, tout ça, bon. Évidemment, étant donné que, surtout au 19e et 20e siècle, on était subjugué par la philosophie grecque, etc., on a dit logos, logos c'est Jean, mais c'est grec. Donc, ils ont lu les prologues de l'Évangile des Jean dans une clé de compréhension très grecque, très philosophique grecque. Avec une difficulté, c'est-à-dire que l'Évangile des Jean a quand même un arrière-plan sémitique ou juif, si vous voulez, extrêmement vrai et fort. Bon, c'est ce que je viens de dire. Ça aussi. Vous avez entendu parler certainement du fait que les Juifs, à l'époque du Christ, quand ils lisaient la Bible, ils tombaient sur le célèbre tétragramme, c'est-à-dire les quatre consonnes utilisées pour dire les mots Dieu, les noms de Dieu de l'Ancien Testament, vocalisés comme il faut dire Yahweh. Mais les Juifs ne les prononçaient plus par respect. Je ne vois pas pourquoi. Mais bon, ça c'est leur affaire. Ils ne prononçaient pas les noms de Dieu. Et quand ils tombaient sur les noms de Dieu dans le texte biblique, ils les remplaçaient automatiquement par un autre. Trois sont les plus classiques, la Shekinah, la présence. Vous avez là. Ou bien Kabod, la gloire. Ou bien la membra, qui veut dire la parole. Membra, c'est un terme aramain. Shekinah, c'est hébreu, Kabod aussi. Donc, utiliser les mots parole pour dire Dieu, dans le monde juif, était plus que banal. Et si vous lisez justement les textes de cette époque. Oui. Ah, c'est bon. Voilà. Il est, à mon avis, hein, bon, je ne suis pas le seul, mais enfin, je pense que derrière le prologue de Jean, au commencement était le verbe, etc., au commencement était la parole, qui est quand même, pour nous aujourd'hui, et pour eux alors, c'est un vocabulaire de la communication qui parle plus que le verbe. Le verbe, oui, on peut dire qu'il a le verbe « haut ». Mais enfin, quand vous dites ça, il faut faire trois notes en bas de page pour expliquer. Le terme « parole », à mon avis, est beaucoup plus dense et effectif pour dire la dimension des communications que le mot verbe. Enfin, si le mot verbe, ça vous plaît, vous direz verbe, puis ça ne serait pas un drame cosmique. Mais personnellement, je préfère cette histoire de membra parce qu'il est très utilisé à l'époque et la traduction, la parole, à mon avis, est très... C'est faire connaître, disent dans la description du concile sur la révélation, pour se faire connaître. Cela ne veut pas dire que cette révélation est uniquement pour les chrétiens. Bah, les juifs déjà, là quand même... Les trois quarts de la Bible, c'est Israël. Et par ailleurs, comme on verra aussi au Concile, tel qu'il l'a reconnu, en dehors de la tribu judéo-chrétienne, Dieu peut aussi se manifester. C'est vrai que, de ce point de vue, comment, enfin, le rapport avec les autres religions et que la part de la révélation dans les autres religions, à mon avis, pour l'instant, on a plus de questions que de réponses. Mais on laisse ça pour le dernier coup où on verra. Alors, ils disent, c'est révélé, c'est fait connaître à certains hommes grâce à l'action de l'Esprit Saint. Bon. L'Esprit, c'est un terme qui n'est pas trop souvent utilisé dans l'Ancien Testament, mais enfin, quand même. ça représente la force, la dynamique, l'activité des dieux. Quand les rois étaient ouants avec l'onction d'huile, cela signifiait, voulait dire, que Dieu imprégnait le roi pour la mission qui lui était confiée. Et là, c'était effectivement par l'esprit. Vous vous souvenez, enfin, si vous ne vous souvenez pas, vous le verrez un jour, Saül, quand il a été ouan comme roi, à la suite de cette onction, il s'est mis à prophétiser, c'est-à-dire à danser avec une bande de prophètes qui étaient en transe, possédés par l'esprit, comme expression de la présence de Dieu avec lui et pour lui, garantissant son action de roi. Donc là, c'est l'esprit, c'est une manière d'exprimer la présence et l'activité des dieux avec les hommes, dans telle ou telle circonstance, etc., etc. Bon. On nous dit, dans cette, disons, définition concentrée du Vatican II sur la révélation, que l'Ancien Testament était imprégné de l'attente. Et vous verrez cette année, c'est le premier dimanche ou le deuxième de l'Avent, on va lire Luc, et Luc a une phrase qui est très très belle, juste avant, après le baptême de Jésus, dont il passe rapidement, il dit « Le peuple était en attente ». C'est une phrase qui me semble, quand vous n'attendez plus rien, c'est fini. Il y a une phrase aussi de notre prophète Sophonie, bon, évidemment, on ne le lit pas chaque jour, hein, Sophonie. Mais à un moment, il engueule ses concitoyens, il leur dit « Oh vous, hommes sans désir, sans attente, sans rien, flasque, sans rien. » Et « homme sans désir », c'est une insulte, à mon avis, particulièrement virulent. Mais donc, le peuple était en attente. L'Ancien Testament, surtout les prophètes, ont été ceux qui ont sémé l'espérance en Israël. Un des éléments, un des fils conducteurs majeurs des prophètes, c'est justement de cultiver et de proposer l'espérance. Il y a une définition à double point du prophète, qui n'est pas de moi, mais c'est quelqu'un qui va faire l'année prochaine, ici, les cours sur la morale politique et financière. Discutant un jour, etc., il a dit, mais le prophète, et c'est lui qui dénonce l'insupportable et annonce l'inimaginable. Donc c'est la racine même de l'espérance. Dénonce et annonce. Dénonce l'insupportable et annonce l'inimaginable. C'est pourquoi, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il est mal vu toujours. Dans la Torah, il y a aussi un certain nombre de textes, enfin, disons, on pourrait dire de la trame essentielle de la Torah qui relève de l'espérance, que la Torah est sous-tendue par la promesse de Dieu au patriarche la promesse d'un pays, d'une terre et d'une descendance. Pour la descendance, bon, ça c'est fait pour la terre, la Torah, pour la terre. On est toujours aux portes de la terre promise, et d'une certaine façon, on n'y entre jamais. Donc, par la manière dont la Torah gère la question de la promesse de la terre, on est obligatoirement dans l'espérance. D'autres parties de l'Ancien Testament sont moins branchées sur l'espérance. Ils se contentent plus de ce qu'ils ont déjà. Et donc, les gros blocs des prophètes, qui est quand même le deuxième gros bloc, d'une part, et la Torah aussi, sont tendus par l'espérance. Donc, de ce point de vue, ce qu'a dit Vatican II est tout à fait exact. L'attente constitue un élément essentiel de la révélation. Le peuple était en attente. Bon, je m'arrête là. 5 minutes de respiration et on reprend tout à l'heure.
Une minute une, c'est formidable.
Une minute une, qu'il reste encore.
Non, c'est vous qui avez parlé une minute une.